Bonjour Eric Werth.
Oui, bonjour.
La dette publique de la France a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 2000 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre, soit le double de ce qu'elle était il y a 10 ans. En 2005, le ministre de l'économie de l'époque, Thierry Breton, avait tiré la sonnette d'alarme, alors que la dette à l'époque n'en représentait que, entre guillemets, que 66% du produit intérieur brut. On en est aujourd'hui à 95%. Comment est-ce possible? Finalement, est-ce que la dette, droite ou gauche confondue, c'est pas j'y pense et puis j'oublie?
Il y a un peu de ça. Ce sera 100% de notre richesse nationale l'année prochaine. Donc c'est évidemment des chiffres colossaux. Alors d'autres pays connaissent des situations bien pires, mais c'est pas une excuse. Entre 2005, c'est-à-dire Thierry Breton et Michel Pébrot, qui avaient fait quelque chose de très remarquable pour essayer d'avertir sur le niveau de la dette, c'est vrai qu'il y a eu la crise, et la crise de 2008-2009, elle a considérablement alourdi la dette de la France, puisque les recettes ne rentraient plus et qu'il fallait des plans de relance, c'est-à-dire l'argent public. On aurait dû par la suite plutôt baisser son évolution, ça n'a pas été le cas. Depuis François Hollande, au fond, l'évolution de la dette n'est pas meilleure qu'auparavant, contrairement à ce qu'il dit. Donc on voit bien que la seule solution, c'est la baisse des dépenses publiques, c'est la baisse du déficit. Quand vous rajoutez 90 milliards chaque année, évidemment, à un moment donné, ça explose totalement. Et depuis 3 ans, les déficits publics, depuis 2 ans maintenant, les déficits publics ne baissent pas réellement. L'année dernière, le déficit public, il était aux alentours de 4%. Cette année, il sera aux alentours de 4,4, c'est-à-dire qu'il augmente. Et l'année prochaine, il sera, selon ce que dira le gouvernement tout à l'heure, au moment de la présentation du budget, à la même hauteur. Donc le déficit public, c'est l'élément constitutif de notre dette. Nous dépensons trop. La dépense publique est trop élevée.
Oui, et en même temps, la réduction des dépenses publiques ne favorise pas la croissance. Donc c'est un peu un cercle vicieux.
Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que la réduction des dépenses publiques, au contraire, elle favorise la croissance un peu durable, c'est-à-dire la vraie croissance sur une base saine. Parce que la réduction des déficits publics, quand vous avez beaucoup de déficits et beaucoup de dépenses publiques, elle a un sens. Si on en avait très peu, ce serait récessif. Mais là, c'est pas le cas. C'est toujours la même excuse. Pour s'excuser de ne pas baisser la dépense parce que ça fait mal et que c'est difficile à faire, on dit en général que c'est récessif ou qu'il y a d'autres raisons, il y a des élections. Enfin, il y a toujours une bonne raison, au fond, pour ne pas faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire des réformes de fond et pas uniquement des coups de rabot ici ou là, de temps à autre, pris dans la panique.
C'est donc dans ce contexte que le projet de budget 2015 est présenté aujourd'hui. Des économies sur la dépense publique, justement, sont annoncées, 21 milliards à répartir entre l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales, et une réduction d'impôts pour les ménages avec la suppression annoncée de la première tranche. Est-ce que c'est la bonne équation, ça? Donc, économie sur la dépense et allègement des impôts.
En réalité, on est en train de perdre notre souveraineté. Avec un tel niveau de dette, et dans le budget qui sera présenté tout à l'heure, on n'en connaît pas encore vraiment le détail, on perd notre souveraineté. Et la souveraineté, c'est à la fois du militaire, au fond de la force, mais c'est aussi évidemment notre capacité financière. Et si jamais la dette se poursuivait à ce niveau-là, évidemment, on risquerait à un moment donné d'être pris en défaut de paiement. C'est un vrai risque, parce que si les taux d'intérêt remontent, on sera incapable de payer tout ça. Donc il y a un vrai sujet que le gouvernement ne traite pas, le moins qu'on puisse dire, totalement. Les économies auxquelles vous faites référence dans le budget à venir, portent essentiellement sur les familles, c'est-à-dire la sphère de la sécurité sociale, portent aussi sur les retraités, puisque la CSG des retraités va augmenter, donc ça, ce sont des recettes supplémentaires, au fond, une imposition supplémentaire. Mais il n'y a aucune vision, il n'y a pas de réforme, puisque on pourrait réformer la politique familiale, ça ferait un débat, il y aurait les pour, il y aurait les contre, mais ce n'est pas le cas. En réalité, il y a des coups, il y a des piqûres comme ça qui sont mises sur tel ou tel point. On dit on va réduire les modes de garde, on va réduire les allocations familiales, on va réduire le quotient familial,
le congé parental,
un sur les familles, tout d'un coup, c'est quand même assez étonnant, sans dire ce que doit être à ce moment-là la politique familiale selon le gouvernement de la France. Donc il y a aucune vision. Les économies, c'est la traduction normalement de réformes structurelles, alors qu'aujourd'hui c'est la traduction d'une série de mesures prises les unes à côté des autres. On voit bien d'ailleurs que le gouvernement est totalement incapable de les expliquer. C'est bien là le problème. Il faut expliquer. Il faut que les économies soient au service d'une politique de réduction de la dépense publique et en même temps au service d'une espérance, c'est-à-dire d'une France qui aille mieux sur le plan financier, qui donc retrouve une croissance plus saine.
Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, affirme que le tour de vis sur la politique familiale n'aura pas d'incidence sur la démographie. Vous lui donnez quitus ?
Non, non, je ne lui donne pas du tout quitus. Le gouvernement dit tous les jours blanc, puis c'est noir le lendemain. Enfin, toutes les prévisions aujourd'hui du gouvernement depuis 2 ans et demi sont des prévisions qui se sont révélées fausses. Donc celle de Marisol Touraine, elle sera fausse aussi. La politique familiale en France, elle est essentielle. Elle, nous avons un pays, comme tout le monde le sait, plutôt en forme sur le plan des naissances, c'est très important. Et puis, en même temps, elle rétablit l'égalité entre ceux qui choisissent d'avoir des enfants et ceux qui n'en ont pas. Il y a une égalité au travers du quotient familial, au travers d'une multitude d'instruments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, entre nous, la politique familiale, c'est quand même celle qui est le moins en déficit par rapport aux autres. Les vraies questions, c'est... Des coups de rabot, ça sert à rien. On atteint très très vite les limites, alors qu'il faut des réformes. Et les réformes, il n'y en a pas.
Alors, vous allez présenter, à propos de réformes, justement, prochainement, une proposition de loi visant à remplacer le principe de précaution par ce que vous appelez le principe d'innovation responsable. C'est un peu la même idée que celle qu'a formulée il y a quelques jours Nicolas Sarkozy en parlant du principe de responsabilité au lieu du principe de précaution à propos du gaz de schiste. Vous voulez quoi ? Faire sauter une espèce de carcan sclérosant dans la société française ?
Oui, moi je suis ça depuis déjà pas mal de temps. J'avais déposé une proposition il y a plus d'un an et demi, donc je réitère avec un de mes collègues qui s'appelle Damien Abad. Et donc on propose de supprimer de la Constitution ce principe de précaution qui est sclérosant. Une société qui n'ose pas. Une société qui ne prend pas de risques est une société qui ne progresse plus. Tous les progrès de humains ont été réalisés, notamment sur le plan scientifique, par une prise de risque et par des sociétés qui osaient à un moment donné. Et aujourd'hui, mettre en exergue dans notre constitution le principe de précaution, c'est au fond ne pas croire en l'avenir, et c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux, sclérosant, terriblement immobile. Et on propose un principe d'innovation responsable, parce qu'évidemment, il n'est pas question de faire n'importe quoi, c'est, bien sûr. Donc il y a la responsabilité, mais il y a surtout l'innovation. Aujourd'hui, la France, elle perd des parts de marché, elle perd du terrain par rapport à d'autres pays dans le domaine des nanotechnologies, de la biotechnologie, dans plein de domaines, dans le domaine de l'énergie. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on perd des capacités de recherche. Les recherches partent ailleurs. Des grands groupes français sont en train d'investir aux États-Unis dans le domaine des gaz de schiste, dans le domaine des OGM. Il y a des recherches qui doivent être faites et pas combattues comme elles le font, comme elles le sont aujourd'hui, avec une vision extrêmement obscurantiste. On doit réellement aller de l'avant, sinon il n'y aura plus d'industrie en France bientôt et il n'y aura plus aucun goût pour l'avenir.
Vous soutenez Nicolas Sarkozy dans sa... dans son combat pour prendre la présidence de l'UMP, enfin combat dans sa campagne, dans son intention. Et ensuite, parce que vous savez qu'il n'est pas revenu que pour ça tout de même.
Oui, sûrement, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas candidat aux primaires. Il y a d'autres candidats déclarés aux élections primaires. Moi, je pense que pour la présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy est le meilleur des candidats. C'est un candidat, au fond, et il incarne le renouveau, même s'il n'est pas nouveau, il incarne ce renouveau parce qu'il a à la fois l'expérience et qu'il repart par le biais de son parti politique. Et le parti politique, c'est la base de la reconquête pour la suite. Et puis, il devra organiser, s'il gagne, il devra organiser les élections primaires. Et là, les jeux sont ouverts. Je travaille avec François Fillon, tout à l'heure je serai avec lui. J'ai pas de difficulté à assumer ça, j'ai de l'estime pour les deux hommes. Je pense réellement qu'il faut laisser les choses ouvertes. Plus on fermera l'UMP, plus à ce moment-là on s'éloignera de nos militants, c'est une certitude, mais on s'éloignera de la réalité du terrain. Ça a fait beaucoup de mal ce qui s'est passé à un moment donné, il y a 2 ans, à la tête de l'UMP, beaucoup beaucoup de mal. Donc ayant une vision ouverte, moi je veux que quelqu'un de ma famille politique revienne à ce moment-là au pouvoir en 2017, parce que je pense que ce sera réellement une chance pour la France. Il faut travailler sur le fond d'ici là, bien sûr.
En deux mots, la victoire de Gérard Larcher dans la primaire de l'UMP pour la présidence du Sénat, c'est un petit revers pour Nicolas Sarkozy qui préférait Raffarin ?
Non, je pense que c'est vraiment d'autres lectures. Je félicite Gérard Larcher, j'ai une pensée pour évidemment également Philippe Marini et puis Jean-Pierre Raffarin, mais en même temps, le Sénat c'est beaucoup plus complexe que uniquement tout cela. Les influences sont ailleurs que des influences purement politiques.
Merci Eric Woerth, bonne journée.